Bonjour à tous, je vous invite de nouveau à la prière. Notre Père, effectivement, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta révélation. Merci pour les Écritures qui nous enseignent. Et nous te demandons de nous aider d'être encore à l'écoute de ta parole. Effectivement, nous voulons le faire avec un esprit de reconnaissance et aussi avec ce désir d'apprendre, apprendre de toi. Bénis chacun d'entre nous, bénis aussi les enfants qui passent ce temps ensemble avec Sophie. Que tu puisses tous nous accompagner, nous guider toujours plus vers une connaissance de toi. Au nom de Jésus. Amen. Je trouvais intéressant parfois de réfléchir au lien qu'il y a entre les présidents de culte et la prédication. J'ai entendu une fois quelqu'un, un prof de théologie, dire que normalement le président de culte et le prédicateur devraient se concerter. Ce n'est pas souvent le cas, mais que Dieu rattrape souvent le coup en faisant un lien entre les deux. Donc on peut s'amuser dimanche après dimanche à chercher les liens qu'il y a entre la présidence de culte et la prédication. C'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui et les autres dimanches. Et souvent, on me dit, effectivement, il y a un lien. Alors voici, c'est pas aussi grand que sur l'image de l'écran, mais voici un petit ticket que nous avons gagné en famille à la tombola de la fête du 14 juillet, organisée par le comité d'animation de Guillonville. Voilà, c'est un ticket que nous avons gagné, et c'est un billet pour une entrée adulte et une entrée enfant pour le zoo de Beauval, dans le Loir-et-Cher. Alors, lorsque nous avons été tirés au sort, nous étions très heureux de recevoir ces billets et nous nous réjouissons par avance de pouvoir nous y rendre en famille prochainement. Et parfois, on compare la foi en Jésus à un billet pour le paradis. Par la foi, nous croyons en Dieu, en son Fils Jésus, venu nous offrir le pardon pour nos fautes, il est mort pour nous, pour nous donner la vie éternelle. La foi est ainsi présentée, parfois, comme un billet d'entrée au paradis, dont nous pouvons nous réjouir, tout comme nous nous réjouissons de pouvoir nous rendre au zoo de Beauval un de ces jours. Sauf que le paradis, c'est mieux que le zoo de Beauval. Donc nous pouvons d'autant plus nous réjouir d'avoir la foi. Sauf que si nous présentons la foi chrétienne uniquement de cette manière, c'est un peu simpliste et en décalage avec la réalité. Mon billet pour le zoo se trouve dans une enveloppe rangée dans un meuble. Et nous le sortirons et l'utiliserons le jour de la sortie à Beauval. Faisons-nous de même avec la foi. Gardons-nous notre foi bien soigneusement dans une enveloppe, rangée dans un meuble, en attendant le jour d'en avoir besoin. Et lorsque nous avons un coup de déprime, suffit-il de nous dire « J'ai la foi, j'ai mon billet, je suis heureux car j'ai mon billet d'entrée ». Cette pensée suffit-elle à balayer la déprime ou les inquiétudes? La foi fonctionne-t-elle ainsi? Serait-elle une sorte de porte-bonheur invisible? Malheureusement, j'ai l'impression que nous avons tendance à fonctionner ainsi, en nous disant, par exemple, j'ai la foi, j'ai mon billet d'entrée, et ce ticket, je le range soigneusement quelque part dans mon cœur, et il est censé me procurer une consolation, une joie, un apaisement en attendant le paradis. Et le reste du temps, je vis ma vie comme tout le monde, à la différence que j'ai mon billet d'entrée. Trop de chrétiens vivent leur foi ainsi. Et moi-même, il m'arrive de la vivre ainsi. La foi, ce n'est pas cela. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment sommes-nous appelés à la vivre ? C'est ce que je vous propose de voir ensemble en lisant la lettre de Paul aux Éphésiens. Même s'il ne va pas nous apporter toutes les réponses, son enseignement est très riche et pertinent. La semaine dernière, nous avons vu la première partie du chapitre 1, le tout début du chapitre 1, que nous pouvons résumer en une seule phrase, la suivante. Alors, ce n'est pas affiché, c'est juste un résumé du début de la lettre que nous avons vu la semaine dernière. Voici la phrase. Paul affirme aux Éphésiens que Dieu les a destinés par avance à être comblés en Jésus pour célébrer sa gloire, pour célébrer la grandeur de Dieu. Voici donc ce que Paul leur dit au début du chapitre. Que Dieu les a destinés par avance à être comblés en Jésus pour célébrer sa gloire. Nous lisons maintenant la suite de ce premier chapitre et je lis à partir du verset 13, verset 13 que nous avions déjà lu, mais qui nous aide à voir le lien avec la suite. Nous lisons donc les versets 13 à 23. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui nous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Cet Esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu, à votre sujet, quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son esprit, sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en laissant agir en Christ, en la faisant agir en Christ, lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est bien placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et Christ, qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Comme pour le début du chapitre, après avoir lu ce passage, on se demande, mais qu'est-ce qu'il a dit déjà ? Qu'est-ce qu'il vient de dire déjà ? Il dit tellement de choses. Voilà, après avoir lu ce passage, après avoir fermé la Bible, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Alors, dans cette lettre, Paul s'adresse à la communauté des chrétiens d'Éphèse, composée notamment de païens, c'est-à-dire de non-juifs. Il leur dit que eux aussi, tout comme les juifs qui ont cru en Jésus, eux aussi, ils sont bien marqués par le sceau du Saint-Esprit, la marque du Saint-Esprit. Eux aussi, ils sont héritiers de Dieu le Père, ils sont enfants de Dieu. En d'autres termes, ils ont la foi. Ils ont leur billet d'entrée au paradis. L'apôtre Paul se contente-t-il de ce constat ? Leur dit-il, vous êtes enfants de Dieu, donc c'est bon. Continuez à vivre avec la joie de savoir que vous avez votre billet pour le paradis. Non, Paul n'en reste pas là. Il prie pour eux en demandant à Dieu de leur accorder autre chose. Et c'est le premier point que j'aimerais relever. J'ai deux points aujourd'hui. Premier point, après leur conversion, les Éphésiens ont encore beaucoup à apprendre de Dieu. Comment l'apôtre Paul prie pour eux ? Je vous relis quelques versets, à commencer par le verset 17. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Paul prie pour que les Éphésiens connaissent Dieu. Mais ne le connaissent-ils pas déjà ? Il vient de dire qu'ils sont convertis. Il est vrai que s'ils se sont convertis, ils ont démarré une relation avec Dieu. Mais ils ne le connaissent pas complètement. Ils ne connaissent pas Dieu complètement. D'ailleurs, Dieu est tellement grand que nous n'avons jamais fini de le connaître. Paul prie pour que leur connaissance de Dieu soit une connaissance personnelle. Il ne veut pas qu'ils connaissent des choses sur Dieu, mais qu'ils connaissent Dieu lui-même. Comment arriveront-ils à le connaître ? Grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Paul appelle ici l'Esprit de sagesse et de révélation, dans le verset 17 que je viens de lire. Une fois de plus, pour connaître le Seigneur, nous avons besoin de son aide. Il est intéressant de noter que la foi n'est pas une question d'expérience mystique, indescriptible et inexplicable. Notons aussi que l'apôtre ne prie pas pour quelque chose qu'il ne possède pas encore. J'ai parfois rencontré des gens qui attendent toujours plus d'expériences, plus de manifestations de Dieu, car les manifestations spectaculaires ou émotives seraient des signes d'un niveau spirituel supérieur. Pour expliquer cette vision des choses, avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord, prenons l'exemple des jeux vidéo, notamment les jeux de course de voitures. Alors vous n'êtes pas forcément familier avec cela, je vous donne un peu plus de détails. Il existe beaucoup de jeux vidéo où le joueur conduit des voitures de course et il fait des courses, soit contre l'ordinateur, la console, soit contre d'autres joueurs sur le même écran, soit contre d'autres joueurs en ligne. Donc voilà, le but c'est simple, c'est d'être le premier arrivé. Et dans la plupart de ces jeux, le joueur commence avec une voiture de base, pas très jolie, pas très puissante. Et au fur et à mesure qu'il gagne des courses, il gagne des points ou de l'argent. Et avec ces points, il peut acheter plein de choses. Par exemple, une plus belle carrosserie, des pneus plus efficaces, des accessoires qui lui permettront de rouler plus vite, acheter des options pour le moteur, pour qu'il soit plus performant, etc. Et j'ai l'impression que certaines personnes conçoivent la vie chrétienne de cette manière. Au début, nous serions juste des chrétiens de base. Ensuite, en vivant une vie meilleure, nous gagnerions des pouvoirs supplémentaires, en l'occurrence des dons supplémentaires. Il y aurait ainsi plusieurs niveaux de chrétiens. Des chrétiens plus spirituels, avec plus de pouvoir, et des chrétiens moins spirituels, qui n'ont pas compris qu'il fallait toujours chercher plus. Le défaut de cette vision, c'est que cela culpabilise certains chrétiens, car ils ont l'impression de ne pas avoir reçu assez, et cela les rend insatisfaits de leur relation avec Dieu. L'apôtre Paul ne présente pas les choses ainsi. Il prie, en effet, pour que les chrétiens d'Éphèse connaissent davantage le Seigneur. Mais il ne s'agit pas de recevoir plus de pouvoir ou plus d'expérience. Ils connaissent déjà le Seigneur et ils prient pour qu'ils le connaissent davantage. Pour reprendre l'exemple du jeu de voiture, c'est comme si vous aviez déjà reçu la meilleure de toutes les voitures, la plus performante, la plus jolie et la plus rapide. Vous avez déjà tout cela. Vous avez déjà le maximum, le meilleur. Vous avez déjà tout reçu. Mais, vous ne savez pas encore utiliser toutes les options et il vous faut apprendre à les découvrir. Cela me rappelle encore une petite anecdote d'il y a une quinzaine d'années. Ma sœur m'avait donné une enceinte qu'elle avait en double et je l'ai utilisée pendant toute une année pour brancher mon ordinateur et écouter de la musique. Et pour moi, c'était la fonction principale de cette enceinte, me servir de haut-parleur. Et un jour, j'ai eu besoin de sonoriser un événement où il y avait besoin d'un micro et d'un piano numérique. Et j'ai demandé à un ami quel genre d'installation il fallait pour brancher le piano et brancher le micro. Et j'ai découvert que l'enceinte de ma sœur, que ma sœur m'avait donnée, ne servait pas seulement de haut-parleur, mais aussi d'ampli. Je pouvais non seulement brancher un micro dessus, mais encore deux autres instruments, avec la possibilité de faire des réglages pour chaque entrée. Et j'ai découvert encore pas mal d'autres possibilités avec cette petite enceinte. Alors je me suis dit, mais elle peut faire pas mal de choses, cette enceinte. J'ai regardé sur Internet, et c'est vrai qu'elle peut faire pas mal de choses, et même, elle vaut assez cher. Donc j'ai découvert la valeur de cette enceinte que je n'utilisais que pour écouter de la musique sur mon ordinateur. Tout cela pour dire que cette enceinte, je l'avais déjà, mais je n'avais pas connaissance de toutes ses propriétés, et donc je ne les utilisais pas. De même, l'apôtre Paul souhaite que les Éphésiens comprennent la grandeur de Dieu et la portée de leur espérance qu'ils ont déjà reçue. C'est ce qu'il exprime des versets 18 à 20, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été déjà appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons déjà, c'est moi qui le rajoute, mais à nous qui plaçons déjà notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la laissant agir en Christ, lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Que ce soit l'espérance liée à leur destinée, la promesse d'héritage, ou la puissance que Dieu manifestée en Jésus, ils ont déjà tout reçu. Et Paul prie pour qu'ils comprennent la richesse de ce qu'ils ont déjà reçu. Cela m'amène à la question suivante, qui est mon deuxième point. Comment comprendre les richesses de ce que nous avons déjà reçu? Cette question, l'apôtre y répond de manière plus développée dans le reste de sa lettre. Nous allons l'aborder dans les semaines qui viennent. Je vais donc vous donner simplement un début de réponse. Pour comprendre ces choses, ces richesses, les richesses de ce que nous avons déjà reçu, nous avons d'abord besoin du Saint-Esprit, parce que pour comprendre, il faut que Dieu se révèle à nous. C'est d'ailleurs pour cela que Paul prie, et nous sommes invités à prier nous aussi pour cela. Paul ne leur donne pas la recette pour tout comprendre, il prie pour eux, pour que Dieu les éclaire, verset 18, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. comme la compréhension est donnée par Dieu, nous avons besoin de lui demander pour nous guider. Lui demander de nous ouvrir notre intelligence et notre cœur. Et cela suppose en parallèle un autre préalable, l'humilité. Nous ne savons pas tout et nous avons besoin d'être éclairés. Et puisque nous ne savons pas tout, nous avons aussi besoin de nous remettre en question. Et pour être remis en question, il faut accepter d'être bousculé. Il faut voir que nous pouvons être bousculés, remis en question, d'être en désaccord avec Dieu et lui faire confiance en cas de désaccord. Lorsque certains passages des Écritures nous choquent, nous dérangent, ne collent pas avec notre culture occidentale du XXIe siècle, il ne faut pas chercher trop vite une excuse pour minimiser la parole de Dieu, mais lui demander humblement de nous éclairer. L'important n'est pas que l'Évangile soit acceptable aux yeux de la société. L'important, c'est que l'Évangile soit accepté dans notre cœur. Il me semble aussi que pour comprendre les bénédictions de Dieu, nous devons désirer les connaître. C'est un préalable évident, mais que nous oublions parfois. En général, lorsqu'un sujet nous passionne, nous devenons incollables sur ce sujet. Récemment, j'ai entendu une personne parler de moto et je me suis senti inculte en l'écoutant. Je ne connais rien sur les motos. Et cette personne aurait pu en parler pendant des heures, non seulement des caractéristiques des motos, mais aussi des sensations que procurent les motos. Lorsque l'on est passionné, on n'a pas besoin de se faire prier pour s'instruire. On le fait naturellement. Lorsque l'on est passionné, le manque de temps n'est pas un obstacle. Sommes-nous incollables sur qui est Dieu ? Encore une fois, il ne s'agit pas de connaître des choses sur Dieu, mais de le connaître personnellement. Lui et toutes les richesses des bénédictions qu'il nous a déjà données. La prière de Paul va dans ce sens. Il prie pour que leur cœur soit envieux de connaître la grandeur de Jésus. Et en disant cela, je me rends compte que je n'ai pas un désir quotidien d'apprendre à le connaître davantage. Moi aussi, comme nous tous, mes préoccupations humaines peuvent prendre le dessus et je me contente parfois d'avoir mon billet d'entrée bien rangé dans une enveloppe posée sur un meuble. Les paroles de Paul ne sont pas là pour nous culpabiliser ou nous décourager, elles sont là pour nous stimuler. Je le répète, les paroles de Paul ne sont pas là pour nous culpabiliser ou nous déranger, elles sont là pour nous stimuler. En nous approchant du Christ, par la foi, nous avons reçu de lui plein de choses, d'infinies richesses. Et Dominique nous en a parlé. Nous les possédons déjà, il n'y a plus qu'à les découvrir. Alors pour conclure, c'est la page suivante, c'est la dernière page du diapo. Pour conclure, je reprends juste l'exemple du billet d'entrée aux eaux de Beauval. La foi n'est pas un simple billet d'entrée au paradis qui nous procurerait la joie en y pensant. La foi, c'est plutôt comme un passe-partout. Un passe-partout que nous pouvons utiliser tous les jours. Et Dieu veut nous faire découvrir tous les endroits où ce billet peut nous amener. Ne laissons pas cette foi dans une enveloppe et sur un meuble. La fin du chapitre parle du Christ qui a tout pouvoir sur la terre et dans le monde invisible. La puissance de Dieu est manifestée dans le Christ, en Jésus, mort et ressuscité. Et c'est son esprit, c'est l'esprit de Jésus qui nous est donné. Et avec l'aide du Saint-Esprit, avec la prière, avec l'aide des frères et sœurs dans la foi, avec l'aide des Écritures, poursuivons notre découverte de Dieu et réjouissons-nous, car il n'y a pas de niveau à passer pour recevoir plus, car nous avons déjà tout reçu par sa grâce. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci parce que tu nous as déjà tout donné. Toutes tes promesses sont accomplies en Jésus-Christ. Et c'est en lui que nous croyons. Et c'est son esprit qui nous est donné, qui nous a été donné. Merci parce que cette espérance, nous l'avons déjà. Aide-nous, comme l'apôtre Paul le demande pour les Éphésiens, aide-nous à comprendre la grandeur de tout ce que tu nous as offert par grâce, la grandeur de ta grâce, la grandeur de qui tu es pour nous. Merci parce que tous les jours, nous pouvons nous réjouir, parce que nous pouvons découvrir encore qui tu es pour nous. Que cette découverte soit des découvertes qui nous réjouissent et qui nous rendent encore plus confiants, encore plus désireux de nous rapprocher de toi. Que ton Église soit le lieu où nous avançons ensemble dans cette découverte grandissante et joyeuse. Merci parce que ces paroles de Paul nous stimulent et nous poussent à découvrir les richesses de ce que nous avons déjà. Amen.